Promesse de l'aube, 17 octobre, il est désormais 8h06 et on reçoit nos invités du jour. Nos invités du jour, c'est Rise for Climate Belgium avec Larry et Laurence. Bonjour.
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 Peut-être tout simplement et tout de la manière la plus pratique qui soit, commencer par vous présenter ou présenter Rise for Climate Belgium et puis vous présenter individuellement.
D'accord.
L'un ou l'autre, allez-y.
Alors, Rise for Climate Belgium, c'est un collectif citoyen. Nous sommes tous bénévoles. Et tout a commencé en 2018, lorsque mon ami Kim a rencontré le chanteur Getch. Et à eux deux, ils ont décidé qu'ils voulaient faire quelque chose pour combattre le changement climatique. Et ils ont organisé une première manifestation devant le Parlement européen en septembre 2018. Et depuis lors, donc ça fait maintenant 4 ans qu'on poursuit ce combat.
Donc tu vois, il y avait Rise for Climate international, un mouvement international qui existait déjà. Et donc l'idée, c'était d'en faire une version, une branche belge.
En fait, Rise for Climate était au départ une action mondiale lancée par une ONG américaine qui s'appelle 350.org. Et ils ont, effectivement, Getch et Kim ont décidé de profiter de cette occasion-là. C'était le 8 septembre 2018 pour organiser cette première manifestation. Et ensuite, ils ont fait ça au mois d'octobre de nouveau avec la présence de Greta, qui était encore tout à fait inconnue à l'époque. Mm-hmm. Et puis au mois de novembre avec le climatologue Jean-Pascal Vanipersel. Et ensuite, au mois de décembre, il y a eu la première grande marche de la coalition climat. C'était Claim the Climate. Et c'était juste avant la COP25.
Oui. Voilà. Donc, il commencer là en septembre 2018 et puis sur les chapeaux de roue, enchaîner toute une série d'actions et de rassemblements. Vous êtes là depuis le début?
Non, moi j'ai rejoint, j'ai assisté à la première manifestation et ça m'a convaincu de rejoindre le mouvement.
Et vous, Laurence?
Et moi, je suis là depuis un an et demi.
Ok.
Et moi, c'était plus le fait de faire des actions individuelles depuis longtemps et en fait de me rendre compte que les actions individuelles, elles sont pertinentes, mais à un moment donné, il faut passer à la vitesse supérieure. Et donc, c'est ça l'envie de me mobiliser et de participer, d'être dans la rue, d'être présente sur la place pour faire grossir les rangs.
Oui, on avait cette grosse dynamique 2018-2019 avec les grèves étudiantes, manifestations étudiantes, quasi une fois par semaine. Ça a été assez mis à l'arrêt par la crise du coronavirus. Là, ça reprend les actions de manière régulière.
En fait, nous, on n'a jamais arrêté. Hein. Même pendant le confinement, nous avons adopté le système du Zoom et nous avons organisé des webinaires avec des experts sur le climat, même des actions en ligne avec, on a organisé une action avec 27 représentants de chaque pays membre de l'Union européenne lors d'un conseil européen. Et donc, au lieu d'être au rond-point Schuman avec nos pancartes, on était en ligne et chaque représentant de chaque pays s'est adressé dans sa propre langue à son chef d'État ou de gouvernement. Et maintenant, effectivement, qu'on est un peu sorti du Covid, eh bien, on reprend les actions dans la rue.
Avec justement des chefs d'État qui sont à nouveau à Bruxelles ce jeudi. Et donc, à nouveau, Place Schuman, une action.
Oui, effectivement, on sera présent ce jeudi à Bruxelles. Devant le Parlement pour évoquer plusieurs thématiques comme la taxe du traité énergétique, le Mercosur, la manière dont l'Amazonie est traitée et plusieurs sujets qui vont être évoqués avec des prises de parole qui seront indiquées sur notre site. Voilà.
Oui, je juste corrige que c'est pas le Parlement, mais c'est le Conseil européen.
Pardon. Oui, oui.
on a fait des actions devant le Parlement à la place du Luxembourg, mais cette fois-ci c'est près du rond-point Schuman. Et il y aura une, je ne sais pas si je devrais le dévoiler, mais il y aura une flash mob aussi.
Des surprises.
Un vieux danseur.
D'accord. On a brièvement évoqué des sujets Amazon, Mercosur. On peut développer un petit peu. Enfin, on a du temps ici sur Radio Panique. On peut. Quels sont les grands sujets qui vont être abordés et sur lesquels on peut espérer pousser pour que ça aille plus loin.
Mais donc justement à l'agenda du Conseil européen cette semaine, il n'y a pas le climat et c'est ça qui nous dérange. C'est qu'on trouve que ça devrait être vraiment le point numéro un de l'agenda. Il y a bien sûr l'énergie, mais pas du tout au point de vue climatique. C'est plutôt comment est-ce qu'on peut remplacer le gaz russe avec des centrales au charbon ou du gaz liquide qu'on fait venir des États-Unis ou du Qatar, etc. Et donc, nous, on est là pour rappeler aux chefs d'État et de gouvernement que le climat, c'est l'urgence. Et que climat et énergie sont étroitement liés et que on pointe une série d'incohérences dans la politique européenne. D'une part, il y a le pacte vert européen, ça c'est une très bonne chose qu'on a signé ce pacte avec des engagements contraignants pour réduire les émissions. Mais à côté de ça, il y a des traités de libre-échange comme celui entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est ce groupement de pays d'Amérique latine, Brésil, Argentine, Uruguay. Eh bien, ce traité de libre-échange va être tout à fait en contradiction avec les objectifs du pacte vert, c'est-à-dire que ça va encourager l'importation du Brésil de soja, de bœuf, etc. Et tout ça contribue à la destruction de la forêt amazonienne. Donc ça, c'est déjà une chose. Et puis, le traité sur la charte de l'énergie, ça, c'est un peu compliqué à expliquer, mais c'est un traité qui date de 1994 et qui oblige les pays à dédommager, donc les gouvernements, à dédommager les entreprises d'énergie, les opérateurs de centrales énergétiques, si on décide de les fermer. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, ils ont voulu fermer une centrale au charbon. L'opérateur allemand a demandé un dédommagement d'1 milliard d'euros.
Ouais, bon, parce que tant qu'à faire.
Voilà, c'est les revenus qu'ils auraient pu gagner sur la durée de vie de cette centrale. Et alors, ce traité, évidemment, bloque tout à fait la transition énergétique. Et on veut absolument qu'on modifie ce traité ou que l'Union européenne, que tous les pays de l'Union européenne se retirent carrément, comme a déjà fait l'Italie, d'ailleurs.
Ok. Et ça, c'est pas du tout sur la table des négociations actuellement. Il y a vraiment ce truc de... Ok, on a une préoccupation écologique, mais aujourd'hui, on est passé à autre chose et on... On oublie ce filtre écologique par lequel on devrait tout regarder. C'est vraiment comme ça que fonctionne le Conseil de l'Europe.
Oui, on comprend évidemment qu'il y a beaucoup de sujets à traiter, que pour l'instant c'est la pénurie de gaz et le prix de l'énergie qui a explosé. C'est une urgence immédiate. Mais on perd de vue le fait que le climat, c'est une crise qui se développe très lentement, mais qui est inévitable. Et si on n'agit pas maintenant, ça devient de plus en plus difficile d'y remédier.
Et si on peut éviter de donner 1 milliard d'euros à une entreprise pour pouvoir fermer sa centrale au charbon, autant économiser ce milliard, quoi.
Ouais. Exactement, et c'est pour ça que nous avons invité un représentant de l'ONG Friends of the Earth Europe, Amis de la Terre, qui travaille justement sur le sujet de ce traité et sur la réforme de ce traité.
Donc ce jeudi, il y aura comme ça une série de prises de parole sur les différents sujets que vous voudriez voir abordés.
Oui. Donc on a vraiment tout un programme avec plusieurs intervenants, des activistes, des experts, des climatologues. Il y aura aussi de la musique. Donc Getch, le cofondateur de notre mouvement, sera là. Et voilà, ça commence à 17h30 et ça se termine à 19h.
Donc, et ça, c'est sur le rond-point Schuman.
Pas tout à fait sur le rond-point, parce que quand il y a le sommet européen, tout est bloqué, tout est fermé. Et il y a un espace d'expression libre, et c'est ce qu'on appelle la petite rue de la loi, c'est-à-dire c'est entre le rond-point Schuman et le parc du cinquantenaire.
Ok.
Voilà, c'est là qu'on nous autorise à manifester.
Sans trop bloquer les choses.
Voilà.
Ouais. Vous attendez du monde?
Pour l'instant, il y a 350 personnes qui se sont inscrites via Facebook. Ce qui se passe, c'est que, voilà, moi, de mon côté, ça fait donc un an et demi que je participe. Alors, avec pas autant de connaissances que Larry, plutôt vraiment des connaissances pratiques, de dire, tiens, il faut prévoir ça, à contribuer comme je peux. Et voilà, le monde, voilà, comme vous avez dit, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire, les motivations sont parties ailleurs, ou en tout cas, les préoccupations, je vais dire, peut-être. Et donc, mais ça n'empêche que les participants sont de plus en plus motivés, me semble-t-il, et vraiment pas prêts à lâcher. Et aussi les actions, il y a des actions diverses qui s'organisent en arrière-plan, je veux dire, suite aux mobilisations. Il y a beaucoup de réseaux qui s'installent, et ça c'est vraiment... En tout cas, moi, ça me met en confiance, et je me dis, en fait, il y a vraiment tout un réseau, tout un tissu qui se construit. Et maintenant, ça n'empêche que vos auditeurs, ils peuvent se lever et venir jeudi nous rejoindre.
Surtout c'est à 17h30, c'est pas se lever trop tôt.
Oui, voilà, c'est pas se lever trop tôt, mais c'est surtout se mettre en route par rapport à son divan, je veux dire. Et enfin, de toute façon aussi, je dis le divan, mais en même temps, 17h, c'est l'heure où on est, quand on a famille, c'est l'heure où c'est compliqué. Il y a les devoirs, les leçons, plein de choses. Donc la vie, elle est là. Et en même temps, c'est vrai, comme disait Larry, ce sont des choses à anticiper sur le long terme, et c'est aujourd'hui qu'il faut y penser, parce que plus on avance dans le temps, plus on aura besoin d'y penser, et si on n'y pense pas maintenant, ça risque d'être pire.
Ouais, on a peut-être vu justement, enfin, dans les mobilisations récentes, une forte, forte place de la jeunesse, notamment pour des questions comme ça. Enfin, à 17h30, c'est peut-être plus facile quand on est jeune et qu'on n'a pas une famille, qu'on n'a pas un travail à se mobiliser. Là, c'est un mouvement qui transcende la jeunesse. On n'est plus dans un mouvement, une marche d'étudiants, etc. C'est un mouvement qui touche toute la société dans les membres de Rise for Climate.
Oui, nous sommes intergénérationnels, comme on dit. Tout le monde est bienvenu chez nous, tous les âges. Moi, je suis plutôt senior et il y en a d'autres qui sont des jeunes. Mais depuis le début, on a toujours collaboré avec Youth for Climate. Donc, on les soutient et on les félicite pour leur engagement. Ils ont vraiment permis de faire bouger les lignes.
Donc, on a comme ça plusieurs associations, collectifs très, très actifs en Belgique. Donc, on a... Donc, cette action jeudi est plutôt vous qui l'organisez.
C'est nous qui l'organisons, mais nous avons invité toute une série d'ONG. Je devrais peut-être même signaler que la princesse Esmeralda sera là parmi les intervenants. Et par contre, dimanche...
C'était vers ça que je menais. Dimanche, la grande marche avec toutes les associations, tous les collectifs.
Exactement, oui. Parce que nous sommes membres de la coalition climat, qui date de bien avant RISE, mais nous sommes devenus membres actifs de la coalition. Et la coalition climat, c'est une plateforme qui rassemble maintenant 90 organisations, des ONG, des grosses ONG comme Greenpeace, Oxfam, Amnesty, Bond, Better Life, Milieu, mais aussi des mouvements comme nous, Grands-parents pour le climat, Youth for Climate.
Donc, ouais, grand rassemblement. Je propose qu'on fasse une pause musicale et puis après, justement, on parlera plus spécifiquement de cette marche de dimanche et puis d'autres actions et comment s'impliquer. Promesse de l'aube, The Darkest Hour, c'est un peu la situation climatique actuelle, ça, c'est un peu flippant. Donc on en était sur la coalition climat qui organise sa marche annuelle ce dimanche.
Oui, le 23.
De pas me tromper, c'est ça. Le 23, rassemblement
à 13h.
À 13h à la gare du Nord.
Ouais.
Voilà. Et donc vous faites partie de la coalition climat.
Oui, on contribue en fait à cette organisation. On participe aux réunions depuis le mois de mai. les réunions hebdomadaires pour à la fois parler de la communication et de voir un petit peu comment est-ce que tout ça peut se construire avec les contraintes d'organisation finale, de se dire tiens, où est-ce qu'on peut installer la scène à la fin de la marche, etc. Mais maintenant c'est confirmé, ce sera au cinquantenaire, donc la marche part de la gare du Nord et arrive au cinquantenaire, c'est 3,5 km. Et c'est accessible à tous, les familles, les gens avec des poussettes, avec des moyens de transport moins mobiles, etc. Donc voilà, on sera là, on vous attend à 13h, Gare du Nord. Et comme on disait tout à l'heure, c'est vrai que ça va avoir un côté festif, parce qu'il va y avoir des checkpoints, donc des endroits où les fameuses non-ondes organisations, il y en a quelques-unes qui se sont mobilisées pour organiser des endroits, des animations, donner un aspect festif à la marche, parce que on a envie de prononcer, de dire voilà, il y a effectivement, je vous parlais tout à l'heure de toute cette action, ce réseautage, cet activisme qui est latent, qui est là, et c'est le mettre en lumière en fait ce jour-là, c'est montrer qu'on a envie d'une autre histoire en fait.
C'est ça, enfin, la marche s'appelle vraiment, enfin, Walk for Your Future. C'est vraiment, enfin, quelque chose soit d'espoir et un futur différent que celui. C'est un peu sortir de la darkest hour de la musique pour quelque chose d'un peu plus festif et porteur d'espoir.
Effectivement. Donc l'idée, c'est vraiment d'être aussi fier de se soucier en fait, d'être là, d'être présent, de dire moi ça m'intéresse de réfléchir à comment est-ce qu'on va créer de l'énergie pour pas pour demain mais pour après-demain, et comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va y réfléchir, nos différents pays, comment est-ce que les pays entre eux vont réfléchir, de montrer qu'on est inquiet, de montrer qu'on est là, qu'on est aussi inquiet pour nos factures évidemment, pour comment nos enfants paieront leurs factures. Moi je suis maman de jeunes de 26 et 23 ans, je me dis ils se lancent dans la vie, comment est-ce qu'ils vont faire, ils habitent seuls, voilà, ça nous touche en fait, ça nous touche, et si ça nous touche aujourd'hui, comment ça va nous toucher demain, et pour moi il faut effectivement aller dans la rue, montrer au monde, montrer aux dirigeants qu'on est inquiet, mais en même temps qu'on est confiant et qu'on a envie que ça avance, qu'on a envie d'avoir des nouvelles idées, des nouveaux récits, et de s'entraider aussi, d'être là l'un pour l'autre et de se relier aussi.
Oui, c'est un des trucs qu'on évoquait, c'était le fait que ouais, cette marche qui vient une fois par an, mm-hmm. désormais, et pas un événement unique, un événement unique, mais qui fédère ou qui est là pour mettre en lumière le fait que voilà, toute l'année, il y a des actions, mm-hmm. actions visibles comme d'autres manifestations, comme jeudi, mais aussi actions qui ne sont pas des manifestations, qui sont présentes dans un quotidien quand même.
Oui, c'est ça. Plein de gens. Et il y a aussi, voilà, on tient compte, voilà, comme on disait tout à l'heure, l'action de Rise qui a lieu ce jeudi, c'est à 17h30, c'est une heure possible pour certains de venir à 17h30, mais on est bien conscient aussi que la vie de tous les jours, elle est là, et qu'on n'a pas le temps de venir la plupart du temps, toutes les semaines, de dire oui, je me mobilise pour le climat. Je veux dire, je pense que chaque citoyen a ses propres difficultés ou défis ou simplement obligations. Et donc c'est ça que la marche pour le climat du 23 octobre, c'est vraiment, c'est une date à l'agenda à mettre annuellement, de se dire moi j'y vais, quoi, parce que le reste de l'année j'ai pas le temps, mais là cette fois-ci je vais montrer que je suis là, et montrer que je m'inquiète, et montrer que j'ai envie que ça bouge, et montrer que j'ai besoin d'être entendu aussi. Donc voilà.
Et c'est pourquoi en octobre, parce que c'est deux semaines avant la COP27. C'est cette conférence mondiale des Nations Unies sur le climat, où chaque pays est censé venir avec des objectifs plus ambitieux que ceux de l'année précédente. Et voilà, on choisit cette date pour mettre la pression sur la Belgique, pour qu'elle montre quand même son engagement et soit présente à la COP27, avec les 26 autres pays de l'Union européenne, avec des objectifs plus ambitieux qu'auparavant. Parce que malheureusement, on n'est toujours pas sur la bonne trajectoire pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré. On est plutôt sur la voie pour presque 3 degrés, avec les effets catastrophiques qu'on voit déjà.
Oui, et on voit... Enfin, ah, vas-y, Lydia.
On va faire les JO d'hiver dans le désert, alors ça va.
Enfin, bon. Oui, on est motivés.
On est motivés.
Sur la bonne voie.
Oui, il y a des choses tout à fait absurdes.
J'avais juste une petite question. Pardon. Donc, il y a cette marche qui se met en octobre et il y a donc des actions comme ça dans l'année. Et quels sont les impacts que vous avez pu relever face aux politiques ou autres?
Ben, moi, je suis persuadé que s'il n'y avait pas eu la mobilisation des jeunes de Youth for Climate et du mouvement mondial qui s'appelle Fridays for Future et des mouvements comme nous, en 2018-2019, nous n'aurions pas aujourd'hui le pacte vert européen. Parce que c'est toute cette mobilisation avant les élections européennes qui a, disons, permis de conscientiser les gens sur la question du climat et qui a fait que les partis politiques qui sont ceux qui reconnaissent ce problème et l'urgence ont fait un très bon résultat à ces élections européennes. Et quand Ursula von der Leyen, la présidente qui avait été nommée pour être présidente de la Commission européenne, a dû présenter sa candidature devant le Parlement européen, eh bien, pour obtenir le vote des partis qui sont plutôt pour l'écologie, eh bien, c'est à ce moment-là qu'elle a présenté le pacte vert, et qui a été plus tard approuvé par le Parlement et par le Conseil. Donc ça, c'est déjà, pour moi, une belle avancée, et ça montre que la mobilisation a un réel impact. Et je sais qu'il y a des gens qui se découragent, qui se disent ça n'avance pas, mais il faut être réaliste et il faut comprendre que la politique, ça avance très très lentement. Mais voilà, c'était déjà un pas en avant.
Alors moi j'ai envie d'ajouter que des mouvements comme ceux-là, ils permettent aussi de manière sociale, mais d'un point de vue sociologique, ils permettent en fait à la population de se rendre compte qu'il y a des personnes qui se lèvent et qui s'engagent, etc. Et donc, grâce aux marches et grâce au mouvement citoyen de masse, ça permet à d'autres d'être inspirés, en fait. Et ça, c'est pour moi, c'est quelque chose qui, petit à petit, fait changer les mentalités. Et ça voilà, ça a une certaine valeur, en tout cas, à mes yeux.
Oui. On était l'an passé à Glasgow pour la COP26. Mm-hmm. Ça... Enfin, j'ai un souvenir comme quoi ça se termine pas forcément super bien en termes d'espoir. Enfin, voilà, il y a des déclarations du secrétaire général des Nations Unies, il me semble, qui essaye de motiver les pays à faire mieux et à s'engager, mais enfin, c'est suivi de très très peu de répondants. Enfin, puis il y a les rapports du GIEC à nouveau. Enfin, voilà, il y a plein de raisons quand même de souvent se dire mais on parle un petit peu dans le vide et il ne se passe rien.
Ah oui, oui, c'est sûr qu'il faut garder le moral.
Oui, comment est-ce que vous faites pour garder le moral là-dedans et vous dire ah ben voilà, cette fois-ci la COP27 ça va aboutir à quelque chose.
Kim et moi, nous étions à Glasgow en tant que délégués observateurs et je ne partage pas le point de vue de ceux qui disent que c'était un échec complet. C'est mitigé. Il y a eu des avancées, pas autant qu'on l'aurait espéré. Il y a toujours ce conflit entre les pays développés et les pays pauvres du Sud qui demandent un dédommagement, puisque c'est eux qui subissent l'effet du changement climatique avec les inondations, sécheresses, etc. Alors qu'ils n'en sont pas du tout responsables. C'est, depuis le début de l'ère industrielle, c'est les pays, c'est l'Europe, c'est les États-Unis qui émettent du CO2 et qui continuent à en être les premiers responsables. Et donc, à juste titre, ces pays demandent un dédommagement. Mais l'Europe, les États-Unis, ils freinent des quatre fers parce que ça peut représenter des sommes colossales. Voilà, donc je ne sais pas si on va trouver une solution, un compromis à la COP27, mais je crois que quand même ces conférences annuelles sont très très importantes.
Et que malgré tout, même si c'est le rythme très très lent de la politique, que malgré tout ça avance et qu'il y a eu des...
Mais déjà aussi, moi je connais des jeunes qui sont partis de Youth for Climate à Glasgow, et eux aussi me disaient qu'ils sont revenus un petit peu dépités, effectivement, parce que l'espoir que les évolutions, enfin que l'évolution, que ça prenne plus de, que ça aille plus vite, évidemment, puisque nous on est conscients de l'urgence, donc c'est vrai que on a ce souhait que ça, oui. Allez gars, vas-y, règle-moi ça tout de suite.
Faut vraiment encore quelque chose.
Non, voilà. Donc c'est, et surtout, je pense que les jeunes, ils en sont encore plus que nous. Et donc, ce qui se passe, c'est que après, il y a aussi il y a cette partie-là, ce sentiment aussi de ne pas avoir pu tout le temps pouvoir agir sur place, hein, parce que c'est fort structuré, fort limité, les manières de pouvoir agir en tant qu'activiste sont très cadrées, donc c'est compliqué et sans doute et compréhensible pour des raisons de sécurité. Et en même temps, voilà, je veux dire... ça leur a permis de rencontrer tous les activistes qu'ils connaissent dans le monde, de pouvoir justement continuer ce réseau, continuer cette manière d'agir. Et c'est, pour moi, c'est ça qui est la voie parallèle, entre guillemets, qui se construit. Alors évidemment, c'est pas la voie qui va prendre des décisions, mais c'est des voies qui sont inspirantes et qui peuvent, qui colorent, en fait, la manière dont on espère et on indique aux politiciens de prendre ces voies-là. Maintenant, c'est pas la formule magique, mais en tout cas, elle est là, elle est présente et on peut pas la renier.
Voilà. Et d'un point de vue individuel, mais exactement comme la marche climat de dimanche, c'est l'occasion de recharger ses batteries en se disant qu'on n'est pas tout seul.
Voilà, exactement. Se sentir relié, être là, voir que d'autres sont là, ça fait du bien. Et aussi, ce que moi j'aime aussi bien, je discute beaucoup autour de moi avec ma famille, des amis, c'est aussi l'idée de, ok, il y a des personnes par exemple qui me disent, oui mais moi je vais pas tout le temps en vélo, ou je vais même pas du tout en vélo au boulot, alors c'est bon, je vais pas aller à la marche, c'est tout à fait incohérent, j'ai pas le droit d'y être. Et ça, je trouve que c'est juste dommage, parce qu'en fait c'est pas ça qu'on demande aux gens qui viennent marcher. Ce qu'on demande, c'est de dire moi j'ai telle chose qui m'intéresse, telle partie de la crise climatique, entre guillemets, qui me touche, eh bien, je viens le montrer. Ou j'ai, par exemple, je ne sais pas, moi, les gens, justement, qui sont inquiets de comment vont être leurs factures d'énergie, comment est-ce que vont être leur accès à l'alimentation. Pour l'instant, l'alimentation se dégrade, à cause du réchauffement climatique, les sécheresses vont faire que l'accès à l'alimentation va être plus compliqué. Et donc, ça, ces sujets-là, si on se dit, ça, ces sujets-là, ça m'inquiète, ben alors je monte dans la rue. Ok, c'est vrai, je fais pas tout comme une oie blanche, mais tant pis, j'y vais quand même, parce que si je dois attendre d'être parfaite, ben je n'y vais pas.
C'est ça, enfin, il y aura même personne.
Oui, je crois qu'il y aura personne, en tout cas pas moi.
Et justement, par rapport à ça, quand vous dites que des personnes vous disent je vais pas à vélo, etc., cette sensation qu'il y a des injonctions en fait individuelles très fortes, que à notre niveau en fait il faut être parfait et que voilà, il faut bien faire son tri, il faut bien faire son compost en plus. Ouais. Et c'est des choses en plus qui sont pas forcément évidentes pour tout le monde à Bruxelles. Et à côté de ça, les gros entreprises continuent de polluer, et cette marche, elle est plutôt d'aller vers là, en fait. C'est mm-hmm. pas grave si on fait pas de compost.
Oui, oui, c'est ça. Vous faites pas de compost, venez à la marche. Vous triez pas vos déchets, venez à la marche.
C'est pas là que ça se joue fondamentalement.
Ouais, c'est ça. C'est plus, en fait, quelque part, c'est aussi une marche idéologique, si je ou symbolique, c'est plus dire, c'est porter le symbole, de dire on n'est pas OK que la biodiversité soit à ce point détruite, qu'on en prenne guère inquiétude quelque part. On n'est pas OK que l'accès à l'alimentation, les droits humains soient bafoués. On n'est pas OK avec ça. On a envie d'une justice climatique. On a envie que, justement, comme Larry disait, les personnes des pays les plus touchés, mais on n'est pas OK avec ça. Chacun, quelque part, a son, aussi sa ligne d'entrée par rapport à ce changement climatique. Chacun est touché différemment en fonction de son vécu, de son quotidien, de qui il est, d'où il vient, etc. Et c'est OK. Et moi, je pense vraiment, c'est vrai que parfois je vais aux marches et je me dis, oh là là, celui-là écrit un truc, je suis pas du tout d'accord. Mais ça n'empêche que j'y vais quand même parce que je me dis, OK, c'est ça la société, c'est créer du et, c'est créer du lien, c'est être tous ensemble, mais quand même, avec la même envie d'une vie qui a du sens, d'une vie où on est relié, où on est heureux et où on n'est pas juste des machines à produire et à consommer. Ça, pour moi, c'est important. Ça, c'est ça moi qui me fait monter dans la rue et qui me dit, il est temps d'y aller et de se bouger. Voilà.
Ouais, vraiment un appel à tout le monde à venir. À venir ce dimanche.
Oui, tout à fait.
Voilà, qu'il ne s'agit pas de pureté militante.
Non, pas du tout.
Juste bouger et que ça peut être un premier pas, cette marche.
Mais déjà, juste montrer qu'on est conscient, en fait. Rien que le fait de venir, ça montre qu'on est conscient, qu'on est au courant du problème et que quelque part aussi, qu'on demande à nos dirigeants de prendre leurs responsabilités et de eux s'inquiéter de ça et de eux prendre soin de faire des choix les plus adéquats pour la population.
Oui, donc Larry ?
Non, je suis tout à fait d'accord avec ça et je dirais que si quelqu'un veut agir, ne fût-ce qu'une fois par an, c'est bien ce dimanche, la bonne occasion de le faire.
Oui.
Donc ce dimanche, rendez-vous 13h, Gare du Nord. Et puis petite.
Et puis on arrive à l'esplanade du cinquantenaire. Où il y aura des groupes de musique très chouettes. Très chouettes, ça va être la fête. Ouais. Il y aura des food trucks, des toilettes, tout ce qu'il faut pour qu'on soit en confort aussi. Parce que l'idée, c'est pas de faire une marche qui finit mal, comme ça peut arriver dans certaines manifestations. Et si on est bien dans un cadre familial, dans un cadre où les étudiants, les jeunes, tout le monde peut être présent et où c'est tranquille, mais en même temps, le fait d'être beaucoup, ça témoigne de ce qu'on porte en fait comme message.
Et ceux qui n'ont pas la possibilité de participer à la marche peuvent venir directement au cinquantenaire, juste sur l'esplanade entre le musée de l'armée et l'Auto World, à partir de 15h30. Et donc, comme a dit Laurence, il y aura des groupes de musique, des DJ. Je crois que je peux révéler qu'il y aura le groupe Jaune Toujours, que beaucoup de gens connaissent.
Oui.
Il y aura quelques prises de parole, mais relativement courtes. Donc voilà, c'est plutôt terminé dans une ambiance festive.
Oui, c'est sûr que j'en discutais avec ma voisine qui a trois petits. Elle me disait, c'est gentil, mais 13h, tu m'oublies, ils font tous les trois la sieste. Ils font la sieste dans leur buggy, là, ça va pas du tout aller. Et moi, je dis, viens nous rejoindre à la fête après. Et
c'est tout à fait autorisé aussi.
Oui, oui, oui. C'est autorisé de venir juste faire la fête et d'être juste là pour échanger, pour partager et voir briller nos yeux ensemble.
Très bien.
Voilà.
Merci beaucoup, Laurence et Larry, d'être venus ce matin.
Avec plaisir.
Merci.
Et merci de nous avoir écoutés.